Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Nouvelle saison dans la NFL et nouvelle saison de la zone payante à Cube Radio. Et nouvelle saison veut dire aussi nouveauté pour la zone payante, alors que chaque semaine, un invité spécial viendra parler de football avec vos animateurs favoris. Cette semaine, nous accueillons Denis Casavant, avec qui on discutera de Tom Brady, de son équipe favorite et de l'avenir du football au Québec. C'est aussi le moment pour mettre la table et on vous présente l'état des forces dans la NFL. Tout cela et bien plus dans un nouvel épisode de la Zone payante. Bonjour, bienvenue à la Zone payante, premier épisode de cette quatrième saison de votre podcast de football favori. Je suis en compagnie de Stéphane Cadoret, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steph!
Oui, monsieur. Salut, Jean-Nic. Très content de te retrouver.
Oui, monsieur. Nouvelle saison. Je suis très content, surtout, de pouvoir parler de football. Parce
oui.
que
là, ça fait des mois là, qu'on parle de move de personnel à gauche, à droite, qu'on a presque de la misère à suivre tellement ça bouge. Là, on va voir ce que ça donne sur le terrain. C'est ça qui est trippant là-dedans.
Exactement. On va faire le tour des forces en présence pour la prochaine saison. On va aussi parler d'actualité. Mais d'abord, on va commencer avec notre invité, parce que chaque semaine, nous allons avoir un invité pour avec qui on va parler de football. Et cette semaine, c'est Denis Casavant. Donc, on est en compagnie de Denis Casavant, qui est un journaliste bien connu chez nous à TVA Sports et qui a aussi son podcast ici à Cube Radio et qui est en quelque sorte un des rares érudits du sport qu'on a au Québec. Un journaliste qu'on peut inviter puis lui parler de toutes sortes de sports et il va y avoir toujours quelque chose de pertinent à dire. Puis là, on s'est dit, comme premier invité, quoi de mieux qu'avoir un érudit du sport qui est de chez nous en plus. Denis Casavant, bonjour, c'est un plaisir de te recevoir.
Oui, salut Jean-Nicolas, ça me fait plaisir. Salut Stéphane, bien content de pouvoir participer à l'émission avec vous aujourd'hui.
Ah oui, t'es un collègue en plus, puis on t'espionne des fois. Moi, j'écoute ton podcast évidemment souvent, puis à chaque fois que tu parles de NFL, on voit que tu as de l'intérêt, on voit que tu suis ça, un vrai fan. On le sait, quand tu me décrivais du baseball dans les oreilles quand j'étais plus jeune, on savait que c'était du baseball. Là, c'est comme si tous les sports, tu as une passion, mais on le voit que tu as une passion particulière pour le football. Puis, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton plus loin souvenir que tu as de football? Qu'est-ce qui t'a accroché à ce sport-là?
C'est une bonne question. Je pense que le football puis le baseball quand j'étais jeune, c'est deux sports qu'on regardait beaucoup avec mes grands-parents, avec mon grand-père, quand on regardait les matchs à la télé. Tu sais, je me souviens même de matchs des Alouettes et matchs de la Ligue canadienne quand j'étais jeune, regarder la Coupe Grey et ainsi de suite. Mais j'ai découvert vraiment la NFL, je dirais autour de l'âge de 14 ans. Là, à la fin des années 70, là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la NFL. Puis, l'anecdote que je me souviens encore, c'est de pouvoir regarder des matchs le dimanche à 16h. Moi, les matchs de la côte ouest à 16h de l'après-midi, ça m'impressionnait. Je me disais, comment ça, il est 16h, puis on peut encore regarder du football. Puis il fait soleil à San Diego, puis il fait beau sur la côte ouest. Alors, c'est ça mes premiers souvenirs de vraiment regarder des matchs. Et c'est là que je suis vraiment devenu amoureux de la NFL.
Mais est-ce que dans la famille, vous regardiez le football? Est-ce que t'as comme pitonné et t'es tombé ça là-dessus? Est-ce que t'avais des amis?
Non, mon frère, il aimait le football un petit peu, mais c'était vraiment avec mes grands-parents, comme je mentionnais tantôt, on regardait des matchs à la télé, mais après ça, je l'ai découvert par moi-même. Là, j'ai commencé à m'intéresser, puis à vraiment regarder des matchs. Puis là, je voulais savoir, là, je voulais connaître les conférences, je voulais connaître les divisions, je voulais connaître les équipes. Puis à ce moment-là, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. Là, fait que fallait vraiment que tu fasses tes devoirs, puis tu regardes dans le journal les classements, puis pour connaître les équipes, connaître les joueurs. Fait que c'est de cette façon-là que j'ai commencé à consommer la NFL. Je me souviens de voir Dan Fouts avec les Chargers de San Diego, de voir les Seahawks de Seattle à l'époque avec Jim Zorn, qui était le corps arrière gaucher, avec Steve Largent comme receveur de passe. Alors, c'est là que je me suis vraiment intéressé là, à découvrir la NFL Pour moi, c'était à peu près ça, à l'âge de 14 ans, à la fin des années 70.
Puis t'as-tu fait un voyage de NFL? T'as-tu un jour pris ton pack-sac et tu t'es dit, je vais aller aux États-Unis, aller en voir un de mes yeux?
Non, c'est bizarre parce que c'est une chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire.
Faut que tu fasses ça, Denis. Dans le to-do list, c'est important, ça.
Ben c'est ça, parce que j'ai quand même plus tard là, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'en décrire des Super Bowls, mais à ce moment-là, on les faisait en studio. Alors, j'ai toujours décrit les Super Bowls en studio. J'ai jamais eu la chance d'aller voir un match de la NFL en personne. J'en ai vu un. Puis c'était avec mon fils Mathieu pour sa graduation. On avait fait le voyage à Chicago, mais c'était un match avant saison. C'était un match au mois d'août. Au Soldier Field entre les Bears de Chicago et les 49ers de San Francisco. Puis ça, c'était son cadeau de graduation cette année-là, alors qu'il venait de graduer du secondaire 5. Mais j'ai jamais assisté à un match en saison régulière dans un stade de la NFL.
Denis, tu mentionnais que tu es devenu un fan de NFL plus à la fin des années 70, début des années 80. Ça me ramène évidemment, tu sais, je pense à 1979, Joe Montana qui a été repêché par les 49ers en troisième ronde. Est-ce que par la force des choses, dans les années suivantes, la domination des Niners t'a amené à devenir un fan fini de cette équipe-là, comme on a vu plusieurs jeunes des années 2000 devenir des mordus des Patriots? Est-ce que c'est ton équipe, en fait?
Non, tu sais, moi, ce qui est drôle, Stéphane, c'est que l'équipe que j'ai adoptée quand j'ai commencé à regarder la NFL, ce sont les Oilers de Houston.
Oh.
Il y avait un certain Earl Campbell, qui avait été repêché par les Oilers, qui était un demi à l'attaque complètement dominant. C'était un monstre dans le champ arrière. Si vous regardez des faits sur YouTube, parfois on était 4-5 joueurs pour l'arrêter. On arrachait son chandail puis il continuait à courir vers l'avant. Alors moi, j'ai adopté les Oilers de Houston et on commençait avec l'arrivée d'Earl Campbell à être compétitif. Malheureusement, on perdait toujours contre les Steelers de Pittsburgh. C'était vraiment leur bête noire lorsqu'on arrivait en éliminatoire. Mais c'était une équipe qui m'intéressait. Le bleu poudre, le Earl Campbell, Billy White Shoes Johnson et compagnie qui jouaient à ce moment-là, Bud Adams qui était l'entraîneur-chef. Puis aussi, il y a le fait qu'on jouait à l'Astrodome de Houston, qui était aussi le domicile des Astros, puis j'aimais beaucoup le baseball. Alors tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que c'était vraiment les Oilers que j'ai adoptés comme première équipe.
Non, mais est-ce que tu les as suivis quand ils sont devenus les Titans du Tennessee?
Exact.
Non, c'est ça. À ce moment-là, quand ils sont déménagés au Tennessee, c'était terminé. Je dirais peut-être après le passage un petit peu là, de Warren Moon, après ces années-là, j'ai commencé à moins m'intéresser aux Oilers. Et évidemment, avec le déménagement au Tennessee, j'ai pas continué à ce moment-là. Donc, présentement, je suis joueur autonome. J'ai pas d'équipe favorite. Puis, dans le fond, j'aime ça comme ça parce que ça me permet à chaque année de dire « Ah, ben finalement, cette équipe-là est intéressante. Je vais m'intéresser un petit peu plus à une équipe. » Donc, à chaque année, je m'intéresse à 2-3 équipes en particulier pour voir le cheminement puis comment ils peuvent s'améliorer pendant la saison.
Non, mais là, tu nous ouvres la porte, là. Quelles seront ces 2-3 équipes cette année?
Ben, je pense que, honnêtement, moi, l'an dernier, n'eût été de la prolongation, je pense que les Bills de Buffalo s'en allaient au Super Bowl. Moi, c'est vraiment l'équipe qui m'avait le plus impressionné l'an dernier. J'ai bien aimé la performance des Bengals. Je suis pas certain que les Bengals vont pouvoir répéter leur parcours cette année. Puis parmi les équipes un peu plus négligées, je pense que les Texans de Houston vont être meilleurs que les gens croient. Je regarde, moi, j'ai trouvé que Davis Mills, à la fin de saison l'an passé, a quand même été bon, a démontré de belles choses. Avec Lovie Smith qui arrive comme entraîneur-chef cette année, un entraîneur d'expérience, on sait que la défensive va être solide. On a mis beaucoup d'emphase sur la défensive lors du repêchage. Puis je regarde leur groupe de receveurs, leur jeune porteur de ballon, Damien Pierce, Nico Collins comme receveur avec Brandon Cooks. Alors je pense que Houston va être un petit peu plus compétitif que les gens anticipent cette année.
Bon, ben alors faisons la transition un peu, Denis, si tu le permets, avec les sujets d'actualité. Comme on est de retour en 2022. Est-ce que tu as suivi l'actualité sans doute un peu comme les amateurs de football cet été? Une des histoires qui a marqué l'entre-saison, c'est évidemment Tom Brady qui a pris sa retraite, qui est revenu et ensuite qui est revenu au camp d'entraînement et qui a dit « Moi, je pars pour des raisons personnelles avant de revenir » et sans jamais vraiment expliquer clairement qu'est-ce qu'il était allé faire. Et là, il y a toutes sortes de spéculations ont eu lieu, mais le fond de l'histoire, c'est est-ce qu'un joueur comme Tom Brady, le seul, puis même lui, devrait pas avoir le droit de s'éclipser ainsi pendant le camp d'entraînement?
Ben c'est compliqué cette histoire-là parce que moi j'ai l'impression que on n'a pas les détails évidemment comme tu dis il y a eu plein de rumeurs qu'est-ce qui s'est passé pendant son absence. Mais si Brady avait déjà des engagements, s'il avait déjà un voyage organisé avec Gisèle, avec sa famille, je ne sais pas c'était quoi la raison de son absence, et qu'il a avisé l'équipe au moment où il a annoncé qu'il revenait au jeu finalement, qu'il mettait fin à sa retraite, et que l'équipe était au courant, je pense que dans ce cas-là, on peut faire une exception. C'est quand même Tom Brady, le plus grand quart de l'histoire, celui qui a gagné le plus de Super Bowl. Alors, pour ces raisons, je pense que c'est acceptable dans le milieu du camp d'entraînement. De toute façon, on sait qu'il n'aurait pas joué dans les matchs préparatoires, qu'il rate quelques entraînements. Je pense que c'est... Dans son cas, je pense que c'est acceptable. C'est un joueur recru, un joueur de première année. Peut-être que ça serait plus difficile à accepter. Mais à cause que c'est Tom Brady, je pense que j'ai l'impression que l'organisation était déjà au courant que c'était pour se passer.
Puis Tom Brady a pris sa retraite, est revenu de la retraite, une longue expérience comme journaliste. Pas le premier joueur que tu vois accrocher ses patins ou son gant de baseball et se dire « Ah, je regrette, je reviens ». Est-ce que tu penses qu'il a bien fait?
Bon, on n'avait pas l'impression. Moi, j'étais même pas convaincu quand il annonçait sa retraite. On dirait qu'il se sentait obligé de l'annoncer. Il était pas convaincant, en tout cas, quand il a dit qu'il décidait d'arrêter de jouer. Alors, ça m'a pas surpris qu'il change d'idée quelques semaines plus tard et qu'il décide de revenir au jeu. Est-ce que là, ça sera vraiment sa dernière saison? On sait qu'il y a déjà des engagements pour travailler à la télé une fois sa carrière terminée. Avec son contrat à long terme qu'il a signé avec Fox. Alors, j'ai hâte de voir, mais je pense qu'il veut revenir là, probablement pour une dernière saison quand même à 45 ans. Je pense que il y a de grosses chances que là, ça soit vraiment sa dernière cette année.
Denis, parlant de carrière, l'autre grosse histoire, c'était évidemment de Sean Watson, tout ce qui est arrivé. Là, on reviendra pas là-dessus. Je pense que tout le monde sont pas mal au courant maintenant des allégations qui ont pesé contre lui. On entendait que la Ligue voulait le suspendre au moins une saison complète. Il y avait la juge Sue Robinson qui avait proposé auparavant une saison de 6 matchs, une suspension de 6 matchs. Le compromis, ça a été 11 matchs finalement. Mm-hmm. Où est-ce qu'on devrait tracer la ligne là-dedans? Qu'est-ce qui est une suspension juste et équitable dans un cas comme ça? Parce que c'est des gestes qui ont évidemment été répréhensibles au niveau des femmes. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais ça n'a pas impacté sa performance sur le terrain. Alors, il y a toutes sortes d'opinions, de théories qui circulent là-dessus.
Des gens qui comparent ça à du monde qui ont fait des joueurs qui ont pris des paris sportifs et qui, eux, sont ouais. Suspendus pour la saison entière.
Donc, c'est ça. C'est trop sévère, c'est pas assez sévère. Où est-ce qu'on trace la ligne dans un cas comme ça? C'est pas évident.
Non, mais moi, ce que je comprends aussi de la situation, c'est que de Sean Watson, c'est presque comme si les Browns de Cleveland, en lui donnant un contrat à long terme, un contrat garanti, lui, ça lui permettait à ce moment-là de négocier tous les dossiers, de toutes les plaintes qu'il y avait contre lui. Il y a eu des ententes hors cours pour pas faire face à la justice. Alors, c'est un petit peu comme s'il s'était servi de son boni à la signature, là, imposant que les Browns lui ont donné pour tout régler ses dossiers. Et là, espérer que on va pouvoir tourner la page. Mais en bout de ligne, les Browns, c'est un gros risque parce que j'ai hâte de voir l'impact sur les partisans des Browns. Est-ce qu'il y en a qui vont quand même continuer d'encourager l'équipe? Est-ce qu'il y en a qui disent ah, moi c'est terminé, je peux pas supporter de Sean Watson? Il y a aussi le fait que quand il va revenir au jeu, il va avoir raté quand même 28 matchs au total de toute la saison l'an dernier, 11 matchs cette année. À quoi on peut s'attendre de Sean Watson? Ça sera quoi aussi lui ça comment il va réagir à toute cette pression médiatique, à l'attention quand il va revenir? Est-ce qu'il peut juste reprendre comme s'il jouait à Houston à sa dernière année? Alors, j'ai hâte de voir le dénouement de ce dossier, mais je pense que la NFL, on a tenté là, de faire ça de la bonne façon avec la façon qu'on a réglé sa suspension. Mais en bout de ligne, comme je l'ai mentionné tantôt, moi, je me dis, il s'est servi de l'argent qu'il y a eu des Browns pour régler ses dossiers en cours. Et puis, il perd pas beaucoup d'argent parce que c'est un contrat garanti incroyable qu'on lui a donné là, du côté des Browns de Cleveland, plus de 200 millions garantis.
Écoute, Denis, il y a une chose que t'as fait dans ta carrière, c'est t'intéresser aussi au sport local. Je pense que t'es originaire de la région de l'Outaouais, si ma mémoire est bonne, puis t'as commencé dans la couverture de la CFL, puis ça s'est prolongé, ça s'est poursuivi aussi à Montréal. Là, les Alouettes sont comme dans une période un peu incertaine, là, pour en tout cas, si on en croit là, ce qui se passe au niveau des propriétaires. Quel est l'avenir un peu? Comment tu vois ça, là, toi qui as autant d'expérience dans la couverture de la CFL? Est-ce que c'est une bonne époque pour la CFL? Est-ce que c'est la pire que tu as jamais vue? Puis où se trouve Montréal là-dedans?
Ben, moi, je pense que j'étais chanceux parce que j'ai tombé dans la couverture des Alouettes dans les bonnes années, là, les années de Calvio, Cahoon, de Mark Trestman, de Super Bowl, d'équipes très compétitives, de Jim Popp comme directeur gérant. Alors, j'ai vécu des belles années. Lorsque j'ai quitté, ben, c'était le début justement d'une période un peu plus creuse. Je sais pas si c'est une bonne question, l'avenir de la Ligue canadienne de football. Est-ce que l'intérêt est aussi grand qu'il y a peut-être 5-10 ans? Moi, j'aimerais voir, honnêtement, j'aimerais voir des propriétaires du Québec, des Québécois qui dirigent cette organisation. Je peux pas comprendre que si c'est un si bon produit, pourquoi qu'on n'est pas en mesure d'avoir des investisseurs québécois? On se retourne toujours du côté des États-Unis, d'avoir des investisseurs américains. On a eu Bob Whitenall pendant plusieurs années. On se souvient que c'était M. Spiros au début, lorsque les Alouettes sont revenus. Alors moi, j'aimerais bien voir des hommes d'affaires du Québec ou des femmes d'affaires du Québec investir dans l'équipe et vraiment que ça devienne une équipe du Québec. À long terme, c'est quoi l'avenir de la Ligue canadienne? C'est une bonne question. Je sais que quand je voyageais à travers le pays en couverture des Alouettes, il y a des marchés comme Winnipeg, c'est très fort. Saskatchewan, c'est une religion, là. C'est un peu comme les Packers de Green Bay de la Ligue canadienne de football. Mais les grosses villes, Vancouver, Toronto, Montréal, c'est toujours un peu plus difficile. Il y a tellement d'autres choses qui se passent dans ces villes. Alors, on dirait que c'est plus difficile de faire embarquer les 20, 25, 30 000 spectateurs réguliers, là, des mordus dans ces gros marchés.
Et qu'est-ce que tu penses du produit?
Moi, je pense que le produit a déjà été meilleur. Parce que, tu sais, avant, on parlait de la Ligue canadienne comme une ligue avec des corps arrière athlétiques. Le terrain était plus grand. On avait des pointages élevés, des matchs à pointages élevés. Puis on dirait que c'est pas le cas depuis quelques années. On dirait que alors que la NFL a été capable, elle, trouver la formule de mettre l'emphase sur l'attaque.
Et le football universitaire n'a jamais autant produit de bons joueurs en plus.
Mais ça, c'est un bon point aussi, parce que là, maintenant, moi, je suis beaucoup plus près du football universitaire. Puis on regarde au Québec, on a 30 cégeps avec des programmes de football qui font partie du RSEQ. Ces 30 cégeps fournissent 5 universités au Québec. Alors, on a un produit très relevé, des joueurs de grande qualité. Et c'est la même chose à travers le Canada quand on voit les autres conférences. Donc, on a beaucoup de joueurs canadiens de football qui non seulement évoluent au football universitaire au Canada, mais qui vont également aux États-Unis. Alors, c'est sûr qu'il y a assez de joueurs. Maintenant, c'est de trouver la bonne formule. Je ne sais pas si il y a des choses qu'on peut changer en termes de règlement, en termes de ratio de joueurs américains, joueurs canadiens, mais je pense qu'il y a du travail à faire pour offrir un produit, un spectacle encore plus enlevant du côté de la Ligue canadienne.
Denis, merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour notre première émission de la saison 4 de la Zone payante. On va te souhaiter toi aussi une bonne saison avec du champ gauche, où tu parles de basket, tu parles de hockey, tu parles de football. Y a-t-il un sport dont tu parles pas dans ton podcast?
Ben, je me concentre beaucoup. C'est sûr que là, je vais me concentrer beaucoup sur le début de la saison de la NFL, mais il y a toujours un petit clin d'œil sur le baseball majeur. Dans le fond, ce sont les sports que je suis d'assez près. Alors, je suis le football de la NFL, football universitaire, baseball majeur, bien sûr, puis un petit peu de hockey quand la Ligue nationale commence, mais...
Non, ouais, je t'ai déjà entendu parler de basket aussi. Là, avec le March Madness,
ouais, t'es ouais, pas... Non, c'est ça, le basketball, j'en ai fait dans le passé, alors je m'intéresse un petit peu aussi, surtout au basketball de la NCAA, un peu plus que la NBA, parce qu'à un moment donné, on manque de temps, hein, faut faire des choix sur qu'est-ce qu'on peut regarder à la télé en plus de travailler dans le milieu, alors à un moment donné, faut se discipliner et dire, OK, ben là, je peux pas passer mes soirées au complet à regarder du sport continuellement.
Merci beaucoup, Denis.
Merci, Denis. C'était très agréable. Plaisir de te parler.
Merci, Stéphane. Merci beaucoup, Jean-Nicolas, n'importe quand.
Allez, à bientôt.